Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous. Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous recevez le prix Albert Londres dans la catégorie audiovisuelle Marlène Rabault.
Oui, petite exception à nos usages qui veulent que nous invitions exclusivement des chercheurs dans les enjeux internationaux. À l'heure où des mouvements sociaux massifs se révèlent ces dernières semaines d'un continent à l'autre, il s'agit ce matin avec Marlène Rabault de raconter à hauteur d'homme cette fois et pas à pas l'histoire d'un mouvement qu'elle a suivi caméra à la main. C'est en République démocratique du Congo, en Afrique centrale, l'ancien Zaïre. Son film s'appelle Congo Lucha, du nom du mouvement Lutte pour le changement Lucha, qu'elle a suivi dans l'est de la RDC dès 2016 pendant 2 ans. Bonjour Marlène Rabault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il faut d'abord avec vous replacer Lucha, la lutte pour le changement, dans le contexte politique et social de la République démocratique du Congo. Quand vous commenciez à filmer en 2016, l'élection présidentielle approche, en tout cas en théorie.
Oui, effectivement. Il s'agit de la fin du second mandat de Joseph Kabila, qui a été élu pour la première fois en 2006 lors des premières élections démocratiques dans ce pays qui est indépendant depuis 1960. Et donc Kabila est un espoir pour une population qui vit dans la guerre depuis de nombreuses années. Et donc j'arrive en 2016 et je découvre ce mouvement, la Lucha. Ce sont des jeunes de 25 ans qui ont donc grandi avec ce président Kabila. Et ce président a fait la promesse de ne pas déborder, de ne pas s'accrocher au pouvoir. Et ces jeunes jouent un peu sur cette naïveté en réclamant l'alternance politique. Et donc ils vont décider de descendre dans la rue, dans la non-violence, pour réclamer son départ et puis le respect de ses promesses.
Voilà, parce qu'il faut dire que la constitution a priori de la RDC ne permet pas un troisième mandat. Or, c'est bien un troisième mandat que Joseph Kabila s'apprête à honorer ou à briguer, puisqu'il était déjà président depuis 2001. Il avait pris le poste après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Il trouve, évidemment, comme ça arrive dans ces cas-là, une solution pour modifier la constitution. Et la Lucha, elle existe. Elle existe déjà, en fait, avant que vous n'arriviez en 2016, elle existe depuis 2012 de façon peut-être un peu plus embryonnaire et dénonce d'abord une situation peut-être sociale. Marlène Rabault, le chômage des jeunes, le manque d'eau dans un pays très riche.
Oui, c'est vraiment une grande injustice que vit le peuple congolais. C'est un pays grand comme 4 fois la France, qui a le deuxième plus grand fleuve en Afrique. C'est un fleuve qui pourrait fournir en électricité tout le pays et même une grande partie du continent africain. C'est aussi beaucoup de terres arables, c'est beaucoup de pâturage, et donc c'est une industrie, c'est un développement qui est encore à faire, et pourtant la population reste dans une économie informelle, la population vit avec moins de $2 par jour, donc c'est une extrême précarité. Et donc la Lucha apparaît en 2012 à Goma, dans l'est du Congo, donc à la frontière avec le Rwanda, et donc c'est ces jeunes qui ont grandi dans la guerre vont commencer à réclamer de l'eau, de l'électricité, des routes, parce que c'est un pays qui n'est pas du tout desservi par des routes, et donc les gens sont prisonniers dans la plupart des grandes villes du Congo, et ils vont commencer à réclamer aussi de meilleurs soins de santé. Tout est à faire dans ce pays,
Oui, voilà, vous choisissez de filmer à Goma, dans l'Est où effectivement ce mouvement est le plus présent, la Lucha, dans l'Est où c'est un acte de bravoure que de manifester, parce que après 25 années de guerre, on est tout près, vous le disiez, de la frontière avec le Rwanda, les militaires sont très présents. D'ailleurs, dès les premières manifestations que vous filmez, l'armée intervient. Qu'est-ce que vous savez des jeunes que vous suivez pour, encore une fois, à échelle humaine, parler peut-être de l'un des organisateurs, de Luc ou de Espoir, ce jeune chroniqueur à succès qui rejoint le mouvement un peu plus tard?
Oui, ce sont des jeunes qui, effectivement, dès le départ, se constituent déjà en mouvement citoyen, ne veulent pas former de partis politiques ou d'associations, et donc ils prennent la rue dans un contexte où effectivement les jeunes ont plutôt tendance à prendre les armes. Et donc ils doivent vraiment prouver déjà à la population qu'ils sont non violents, qu'ils ne sont pas là pour renverser le pouvoir ou semer la zizanie. Et donc ils vont ils prennent la rue et font des actions citoyennes. Ils nettoient les rues pour montrer l'exemple, pour se faire connaître auprès de la population par exemple. Et donc lors de leurs premières actions, lorsqu'ils vont vraiment commencer à demander l'alternance politique et qu'ils vont s'adresser au président Kabila, là ils vont commencer à connaître vraiment une répression de la part des autorités, des arrestations, des emprisonnements, de la torture. Et un de mes personnages, Rebecca Kabour, va être emprisonnée pendant 6 mois pour avoir demandé le départ de Kabila. Donc effectivement, Rebecca, c'est la plus jeune prisonnière politique au monde, et elle est l'une des rares femmes dans ce mouvement, parce qu'on est dans un pays où effectivement encore les femmes commencent tout juste à accéder à l'éducation dans les universités. C'est un peu c'est un début.
Donc les autorités commencent à prendre au sérieux et à craindre la Lucha, ses arrestations le prouvent et le montrent. Est-ce que vous avez assisté à des tentatives de récupération, de corruption? Est-ce que certains membres de la Lucha ont été approchés par des proches de Kabila pour tenter de les rallier à leur cause?
Oui, c'était justement en plus souvent un sujet de plaisanterie entre eux, et parce que les uns recevaient des appels de députés, de personnes parfois qui préféraient dont ils préféraient taire les postes, et donc on leur proposait des études, on leur proposait des postes, on leur proposait effectivement de l'argent, et eux toujours avec beaucoup d'humour répondaient, faisaient augmenter les enchères, réclamant des sommes incroyables pour leur départ. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives aussi d'infiltration dans le mouvement pour essayer de dissoudre et puis de semer un peu la mésentente entre eux. Donc certains ont été exclus aussi pour avoir été soupçonnés comme ça de vouloir les séparer. Et donc parce que c'est un mouvement citoyen, donc c'est un mouvement ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des réunions hebdomadaires et où tout le monde peut aller, et donc c'est pas du tout un mouvement caché, c'est un mouvement qui se retrouve toujours dans des endroits publics, et donc effectivement n'importe qui, tout le monde peut venir à ces réunions. Donc c'est difficile de savoir qui est qui.
D'ailleurs, toutes les manifestations et les arrestations aussi sont relayées sur les réseaux sociaux, ce qui donne un élan aux jeunes, peut-être dans tout le pays. Et pourtant, au bout d'un an, vous devez bien faire le constat que le succès ne vient pas. La Lucha compte 1500 adhérents dans un pays qui compte, lui, plus de 80 millions d'habitants. C'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique, la RDC. Et pourtant, au fur et à mesure, ils réussissent à se faire entendre à l'étranger. Des diplomates viennent les voir, ils sont reçus par l'Union européenne. Et c'est peut-être un tournant dans leur mouvement.
Oui, effectivement, c'est peu de victoires sur le terrain. Quand je les suis, c'est toujours très difficile pour les militants de la Lucha de voir qu'effectivement la population reste chez elle, ne sort pas dans la rue, ne vient pas les accompagner pour réclamer leurs droits. Et pourtant, c'est un changement qu'ils espèrent de la population, de vaincre cette peur. Et donc effectivement, ce sont des diplomates qui viennent rendre des visites officielles au Congo dans cette période de crise politique, donc aux officiels, à Kabila, aux opposants et à la société civile, et même à la Lucha, puisqu'ils sont aussi sensibilisés au fait que ce sont des jeunes, des mouvements qui sont touchés par la répression. Et donc suite à ça, il y aura la demande aussi de la part de la Lucha de sanctions contre les autorités congolaises, donc pour avoir retardé le processus électoral, pour avoir réprimé les manifestants, et donc ces sanctions vont arriver à un moment où la Lucha effectivement peinent à faire entendre de la part de Kabila.
Voilà, ça, c'est cette implication européenne notamment lui redonne de l'élan, mais votre film, Marlène Rabault, se termine sur les restes encore fumants d'une maison qui vient de s'écrouler, la maison de Luc Nkoulula, qui est le est-ce qu'on peut dire le leader, c'est pas le leader, mais l'une des figures phares, voilà, un des fondateurs de la Lucha. On est en juin 2018. Est-ce que depuis, il y a eu une véritable enquête indépendante sur les circonstances de sa mort, comme l'ont alors demandé ses camarades de la Lucha?
Non, il y a eu une enquête de 24 heures par la police qui a conclu à un incendie accidentel de sa maison. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments qui font penser que c'est plutôt criminel. Donc, il y a peu de doutes, je pense, de la part pour les militants de la Lucha et pour tout son entourage sur le fait que Luc Nkoulula était un militant exceptionnel, hors norme, très inspirant, charismatique. Et je pense qu'il commençait vraiment à faire peur.
Merci beaucoup.
Je crois, au Congo, quand on lève la tête comme ça, si on la lève un peu trop, on peut se la faire couper. Ouais. Et malheureusement, il n'est pas le premier des militants et des défenseurs des droits de l'homme à disparaître dans ce pays.
Merci beaucoup, Marlène Rabault. Il faut voir votre film Congo Lucha. On pourra le voir dès demain sur le site internet de Télérama jusqu'à dimanche et venir aussi bientôt une diffusion sur France 2. Merci, Marlène Rabault, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.